Coucou, c'est Zébrilde. J'appelle de Brest. Bon, bah, comme vous savez peut-être déjà, on est en lice avec Megacombi pour le prix Humour pour Zaï 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 Zaï. Si vous l'ignorez, c'est une exceptionnelle adaptation de la BD de Fab Caro à la radio. C'est une œuvre majeure qui fait d'ailleurs actuellement l'objet d'une thèse en Medientext und Medienübersetzen en Allemagne. Ah, quand même, ça en jette. Donc, normalement, on devrait gagner haut la main le prix Humour, mais si jamais, au cas où. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à venir à la remise des prix. Donc, c'est le samedi 2 février entre 19h et 20h. Et vous pouvez faire des banderoles du type, par exemple, simplement Megacombi, vainqueur du prix d'humour, ou on casse tout. Voilà. Donc, on vous attend pour nous soutenir à Brest. On vous embrasse. Ciao!
C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir?
The Cure? J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h passé de 12 minutes.
De 2 minutes.
Oh. Et c'est l'heure en tout cas du Canu Info. Et ce soir, nous allons parler de...
Eh ben, on va commencer par parler un petit peu longuement de cette réforme de la justice qui est en préparation et qui n'a pas l'air d'être principalement rigolote.
Ensuite, on parlera. Attends, tu vas me dire de quoi on parle, parce que j'ai le fil de la semaine dernière.
Bien, malgré le Brexit, l'Angleterre et la France s'accordent pour lutter, bien sûr, contre les migrants.
Ensuite, on parlera d'un bateau qui a été forcé de débarquer des migrants qu'il a secouru à Misrata.
Et puis, traverser des Alpes, la chasse aux migrants est ouverte. C'est pas neuf, mais il y a de l'actualité.
Ensuite, on parlera de quoi d'autre ?
De déchets.
De centrales nucléaires qui ont l'air foireuses. Et du ministre de l'écologie.
Pour lequel le nucléaire a toute sa place dans la stratégie énergétique de la France, il l'a dit lundi.
Et on commence donc convenu avec cette loi sur la réforme de la justice. Alors, loi de programmation 2018-2022, déjà on peut faire sourire parce que quand on programme pour 2018 et qu'on est déjà en 2019, c'est mauvais signe.
Ah oui.
Et alors,
c'est que le calendrier a dû être un peu bousculé.
Voilà, à propos de calendrier. Bon, alors, on parle d'une loi qui n'est toujours pas en vigueur, qui n'est toujours pas adoptée, qui est toujours en discussion au Parlement, qui fait des allers-retours depuis presque un an. Et encore, il y aura, du coup, elle passera au Sénat le 12 février. Et sûrement après, il faudra retourner devant l'Assemblée nationale. Alors, il ne faut pas s'attendre à une adoption avant au moins 2 mois. Cette loi, en fait, on en a parlé pas mal dans les médias, on en a en tout cas entendu parler beaucoup parce qu'il y a eu plein de mobilisations contre cette loi, notamment par les professions de la justice, là, les avocats, les magistrats, les greffiers, tout ça. Et on se disait à Radio Canu et au Canu Info que ce serait bien de regarder plus précisément qu'est-ce qu'elle prévoit cette loi et pourquoi il y a tant de mobilisations contre elle. Alors, on va prendre cette loi, on l'a regardée un petit peu, et il y a quelques axes qui sont un gros axe. D'abord, faire des économies. Un deuxième axe qui va avec le premier, c'est aller vers une web justice, une justice sur Internet et une dématérialisation, comme on appelle ça. Un autre axe qui va être au pénal, la diminution des droits de la défense de manière drastique. Et voilà, donc ça fait trois choses déjà sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Tout d'abord, faire des économies, ça veut dire supprimer des tribunaux, dématérialiser, organiser le recul du juge, parce que les juges, ça coûte cher, il faut les former, il faut les payer, et une diminution des droits de la défense. Donc, ces économies-là, ça passe d'abord par la suppression de tribunaux, c'est la suppression de beaucoup de tribunaux d'instance. Le tribunal d'instance, c'est la justice qui est assez proche des gens. Par exemple, là, en région lyonnaise, il y en a un tribunal d'instance à Lyon, il y en a un à Villeurbanne, il y en a un à Bourgoin-Jallieu, il y en a un à Romans-sur-Isère, il y en a un à Vienne. Je veux dire, ils maillent un peu tout le territoire. Le problème avec ça, c'est comme avec les postes et les mairies, en fait, c'est que en fait, ça coûte cher pour le gouvernement. Du coup, il veut les supprimer. Alors, il ne veut pas les supprimer comme ça. Ça ferait vraiment trop gros, quoi, et ce serait trop voyant. Du coup, déjà... ces tribunaux d'instance, pourquoi on va vers eux, c'est tout, ils jugent tout ce qui les litiges de moins de 10 000 euros, dont, et aussi tout ce qui est sur les baux sur le bail d'habitation, donc les expulsions locatives, les impayés de loyer, tout ça, les expulsions des occupants sans droit ni titre.
Est-ce que ça veut dire que c'est toujours du droit civil?
Plus connu, mais en squatter, c'est toujours du droit civil, ouais. C'est toujours les problèmes entre les personnes, entre elles, quoi. Les conflits, aussi les conflits de voisinage sur les haies, les fossés, les syndics de copropriété, tout ça, ça va dans les tribunaux d'instance. Bon, on disait ça coûte cher, mais ça ferait mauvais genre de les supprimer totalement. Du coup, la loi prévoit de les remplacer par des chambres détachées du TGI. Ça fait un petit... Ça fait juste rien, normalement. Les bâtiments vont rester. Il y aura toujours la justice qui sera rendue dans ces lieux-là. Mais il y a un petit tour de passe-passe qui se passe. C'est que dans les villes où il y a déjà un TGI plus un TI, par exemple Lyon, pas Villeurbanne. À Villeurbanne, il n'y a pas de TGI, il y a juste un TI. Il y a juste un tribunal d'instance, il n'y a pas de tribunal de grande instance. Mais à Lyon, où il y a un tribunal de grande instance et un tribunal d'instance, là, on fusionne. Si on fusionne, eh ben, ça veut dire que les postes de greffiers, ils dégagent. Et ça fait autant de moins de gens à payer. Et aussi, quand ils fusionnent, en fait, ça veut dire que tous les juges qui sont affectés et qui travaillent au tribunal d'instance, ils vont se retrouver à travailler au tribunal de grande instance. Donc, ils vont être sous la responsabilité du chef du tribunal de grande instance. Et celui-là, il pourra réaffecter ces juges-là où il veut. Et notamment, ce qu'on veut en ce moment dans la justice, c'est beaucoup de juges au pénal. Parce que la répression, le gouvernement... Il aime, il le prouve encore tous les jours. Et beaucoup de juges aussi aux affaires familiales, parce que ben, c'est là aussi où il y a énormément de conflits sur les divorces. Et du coup, ça fait que avant, tous ces juges-là qui étaient affectés sur les petits litiges de moins de 10 000 euros, sur les expulsions locatives, tout ça, ben, ils feront plus ce boulot-là.
Ça veut dire que plus personne ne fera, que les gens seront obligés de s'arranger entre eux à l'amiable sans passer par un juge?
Ben non, ça veut dire qu'on va en garder. Mais simplement, les délais ils vont s'allonger. Et puis à l'arrivée, en fait, ça va juste dissuader les gens de passer par là. Et soit les délais vont s'allonger, soit aussi la deuxième solution qui est avancée, c'est la dématérialisation. Ce truc-là de tout passer par ordinateur, tout passer par Internet, alors qu'il y a quand même plein de gens qui n'ont juste pas d'ordinateur ou encore moins d'Internet, et aussi que vis-à-vis de la lecture, de l'écrit et tout ça, en fait, tout le monde n'est pas égaux, puis du coup, c'est très difficile, souvent, d'accéder à ces trucs-là, à ces procédures-là. Donc, on va faire cette web justice, une justice sur application. Ça, peut-être on pourra saisir un juge avec une appli sur smartphone un jour, quoi. Mais bon, on n'en est pas là. Toujours est-il que là... On crée, pour diminuer le travail des tribunaux d'instance, une plateforme nationale dématérialisée des injonctions de payer. Alors, c'est un nom très barbare qui sert beaucoup à d'autres barbares qui sont les assureurs et les banques. En fait, les assureurs et les banques, quand elles veulent obliger quelqu'un à payer ce qu'on leur doit, ils font une injonction de payer. Il passe devant le tribunal d'instance. Le problème, c'est que les tribunaux d'instance, il y en a de partout. Ça fait que la banque, elle doit envoyer un avocat à Romans-sur-Isère. Ça ne fait pas plaisir la banque parce qu'elle a son siège à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on fait tout ça sur Internet. Du coup, le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, il ne verra plus aucunement la couleur de ces trucs-là. Et donc, tout ça sur Internet. Et après, on met des juges à Paris qui auront le monopole sur tous ces trucs-là. Donc ça fera beaucoup moins de travail dans les tribunaux d'instance.
Et ça fait aussi que les gens ne verront plus jamais le juge qui prononcera le commandement à payer.
Bah exactement. Ça fait juste qu'en fait, on n'aura plus rien de physique. Ça fait que la petite personne qui avant pouvait aller venir pleurer devant le juge en disant « Mais regardez, moi, j'ai vraiment rien avec moi, je ne peux pas me payer un avocat, j'ai que dalle, ou je suis complètement paumé, puis qu'est-ce que vous me voulez ?» et tout ça, avec qui le juge, avant, il pouvait faire preuve de clémence ou machin, puis de compréhension.
Ça n'arrivait pas tous les jours, non.
Ça n'arrivait pas tous les jours. Mais c'était possible. Bah, aujourd'hui, c'est terminé. En fait. Aujourd'hui, on reçoit un mail qui dit votre affaire va devant le juge à Paris et puis montez pas à Paris, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de salle d'audience. Vous pouvez monter à Paris, ça ne servira à rien. Et le projet, quand même, ces injonctions de payer, c'est 540 000 dossiers chaque année. Je veux dire, c'est énorme, quoi. Et le projet, c'est d'y mettre 2 juges et 30 greffiers. Donc il y a les avocats en début d'année, ils ont calculé, ils disaient c'est 6 minutes par affaire et par juge, tant vous dire ça va aller, mais par greffier pardon, ça va aller très très vite quoi. Et les banques, elles vont vite avoir tous les papiers pour pouvoir aller saisir, envoyer un huissier puis terminer. Donc ces dématérialisations, elle va à grands pas sur ces procédures-là, elle avance aussi pour toutes les autres procédures parce que devant le tribunal de grande instance, toujours sur les trucs civils, mais simplement avec des sommes à payer, des sommes en jeu qui sont au-dessus de 10 000 euros, eh ben, on pourra avoir, pareil, une procédure dématérialisée, tout sur Internet, pas rien, tout écrit, je veux dire, pas d'oral, tout ça. Mais simplement, il faudra que les gens y soient d'accord des deux côtés. Donc c'est un premier pas avant que ça s'étende vraiment. Pour aussi, il y a un truc qui est vraiment fou dans cette loi, c'est on revient sur le tribunal d'instance, donc sur ces petits tribunaux qui coûtent cher et que l'État aimerait bien voir fermer, mais qui ne ferment pas directement, c'est que dorénavant, avant de saisir le tribunal d'instance, il sera obligatoire de tenter une conciliation. C'est-à-dire de tenter auprès d'un conciliateur qui peut être n'importe qui, avocat, machin, tout ça, huissier, notaire, voilà, de demander à ce que cette personne règle le litige, en tout cas propose une solution au conflit. Mais ce qu'ils se sont rendus compte au gouvernement, c'est qu'avant c'était déjà possible de faire ça, maintenant ça devient obligatoire. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça coûte cher, ces conciliateurs de justice. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent, le projet c'est d'ouvrir la conciliation aux entreprises privées, quelconques, et en plus de le faire tout par Internet, tout en ligne.
Tu veux dire que c'est les entreprises privées qui feraient la conciliation ?
Qui feraient la conciliation, et puis ensuite si on n'est pas d'accord, on irait devant le juge. Mais
Tu t'engueules avec ton voisin parce que les branches de son pommier dépassent dans ton jardin, et là au lieu d'aller devant le juge, tu vas sur conciliateur.com.
Voilà, tu choisis l'entreprise de conciliation dont le nom te paraît le plus joli, où elle est le plus dans ton sens, et puis tu fais le truc avec un formulaire en ligne. Et alors, c'est cadeau parce que ces entreprises privées qui font des services en ligne, elles pourront demander une certification, mais elles ne seront même pas obligées. Ça veut dire que n'importe qui pourra créer sa petite appli. Hop, et puis je lui dis, moi je suis conciliateur, et puis voilà quoi. Donc, comme Uber Eats, un peu comme. Voilà. Et bon, voilà, après, sera toujours possible de saisir.
Après, ça veut dire que le conciliateur propose une solution. Donc, moi par exemple, qui ai monté ma boîte de conciliation, je propose une solution, je dis c'est 200 boules, je propose n'importe quoi qui me passe par la tête, et après, si les gens ne sont pas contents, ils vont vers la justice, mais ils me payent quand même.
Exactement.
Les 200 balles.
Les 200 balles, je n'ai pas réussi à savoir si c'est les gens qui te payent les 200 balles ou si c'est l'État qui te paye les 200 balles, mais tu les auras.
Ok. Mmh.
Donc toujours sur faire des économies et faire reculer le juge, bon, il y a plein de trucs sur le divorce et tout ça, mais vraiment plein. Il y a un truc sur lequel à Canu, on fait gaffe quand même, c'est les conflits au travail et face aux employeurs et face aux patrons. Et alors, les conseils des prud'hommes, ils ont mauvaise presse depuis plusieurs années. Et là, le gouvernement, il fait une attaque frontale, simplement, ils suppriment leur greffe, quoi. Donc, les conseillers prud'homaux, pour dire, c'est des gens qui sont élus côté patronal, côté salarié. Du coup, c'est pas du tout des professionnels du droit, c'est... voilà. Et ils ont besoin de leurs greffiers, parce que les greffiers, bah, c'est des professionnels du droit qui vont pouvoir souvent les aiguiller, souvent leur expliquer les trucs et tout. Et là, bon, ils le suppriment, ils le fusionne avec celui des tribunaux de grande instance.
Et là-dessus, même les, en ce moment, ils sont en train de mener un peu une espèce de fronde où il y a plusieurs tribunaux prud'homaux là qui sont mis en faux par rapport au, vous vous souvenez là dans la loi, je sais plus si c'était la loi travail ou les ordonnances. Sur les ordonnances là, il y avait du coup Macron qui avait fait un barème des indemnisations et qui plafonnait très sévèrement les indemnisations des possibles pour les salariés. Et il y a quand même
les indemnisations en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement abusif.
Et du coup, il y en a 3-4 à la suite là qui ont donné des rendus inverses à ce barème en disant que c'était pas possible de suivre ce barème pour couvrir le préjudice du salarié. Et par exemple, sur plusieurs fois, c'était parce que dans les prud'hommes, c'est le président qui a le dernier mot, parce que du coup c'est paritaire du coup entre salariés et représentants de salariés et représentants patronaux, et la présidence tourne, et des fois c'est un représentant salarié, des fois c'est un représentant patronaux, et sur plusieurs fois c'était un représentant patronal, pour dire que c'est pas que vous voyez le truc quoi, et du coup en gros, et il y en a plein qui sont de dire en fait c'est pas possible, on veut pas respecter ce truc là parce que juste c'est beaucoup trop faible. Enfin, il y avait quelqu'un qui avait subi un licenciement abusif et qui devait se retrouver, il suivait les barèmes avec genre 700 balles alors qu'il avait perdu son boulot. Enfin bref, voilà. Du coup, ils sont en train de monter au créneau là-dessus. Alors, est-ce qu'ils leur font payer ou pas?
Peut-être ils leur font payer. Ouais. Et donc voilà sur le Conseil des prud'hommes. Ensuite, si on va sur le pénal, là, c'est l'objectif de faire des économies, on le voit beaucoup moins. Par contre, on voit l'objectif de diminuer les droits de la défense, voire vraiment drastiquement, quoi. Et aussi augmenter les peines. Alors, ça passe par quoi? Déjà, on crée une nouvelle peine. C'est la détention à domicile sous surveillance électronique. Vous allez me dire, mais ça fait au moins 10 ans ou 15 ans qu'on a des bracelets électroniques. Mais jusqu'ici, on avait quoi? On avait un juge, par exemple, en comparution immédiate, qui disait, bon, ben, vous ferez 3 ans, non, bon, 3 ans, j'abuse, 8 mois ferme. Et ensuite, s'il n'y avait pas de mandat de dépôt, la personne restait dehors, elle passait devant un juge d'application des peines qui lui disait « Bon, vous avez l'air sympa, vous avez un appartement, eh ben, on va vous mettre un bracelet électronique, puis vous allez faire vous 8 mois ferme à la maison avec un bracelet électronique. » C'est un cadeau, ce n'est pas non plus une fleur super, c'est juste aussi insupportable d'être enfermé chez soi. Et les gens le vivent méga mal.
Parce que est-ce que tu peux raconter un peu ce que ça veut dire bracelet électronique? Ça ne veut pas dire que tu as un bracelet autour de ton pied et que tu peux faire ce que tu veux dans toute ta vie. C'est-à-dire que t'as...
Oui, ça veut dire qu'on a un bracelet autour de la cheville, ça oui. Mais on a aussi une petite borne dans l'appartement qui, au préalable, on a défini tous les murs les plus extérieurs de l'appartement. Ce qui fait que ça fait une petite cage comme ça. Et du coup, on a des horaires de sortie de la cage et on peut sortir, aller chercher du travail ou aller au travail, par exemple. Mais sinon, en dehors des horaires de sortie, si on n'est pas dans la cage, ben, ça bip chez l'administration pénitentiaire, puis ils viennent nous chercher. Donc voilà, quoi, c'est ça le bracelet électronique. Et là, la nouveauté, c'est que le juge pourra, du coup, directement, par exemple, en comparution immédiate, prononcer cette peine. Donc, au lieu d'une peine d'emprisonnement, cette peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Donc, ce sera encore plus facile, finalement. C'est toujours cette chose-là où les alternatives à la prison, bah, en fait, pourquoi pas? Parce que la prison, on trouve ça quand même très mal, et dans son principe et dans ses conditions où elles sont effectuées en France. Mais par contre, quand on multiplie les peines alternatives, en fait, ça donne l'impression que ben, on peut les prononcer, ces peines-là, qu'elles sont pas graves, qu'elles sont moins graves, que c'est pas très important, et que la personne, finalement, elle se remettra bien de ces 8 mois ou 10 mois chez elle. Sauf que, ben, déjà, on n'est déjà pas égaux ou égales face à la justice, mais on est encore moins égaux ou égales face au logement, par exemple. Puis la personne qui a un 30 mètres carrés, qu'elle paye déjà, je sais pas moi, 550 euros dans le centre de Lyon, Mais en fait, c'est pas, elle n'est pas égale face à la personne qui a une maison avec étage en banlieue proche de Lyon, en fait, ou d'un appartement de 170 mètres carrés. Je veux dire, c'est, on, la peine, on ne la vit pas dans les mêmes conditions, quoi.
Et puis, a priori, alors mes chiffres datent un petit peu, mais y avait une histoire où à chaque fois qu'on créait des peines alternatives à la prison, ça ne diminuait pas l'emprisonnement, ça faisait juste plus de personnes condamnées, mais qu'il y avait finalement toujours autant de gens qui étaient emprisonnés.
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, et comme il y a toujours autant de gens qui sont emprisonnés, en fait, on est en galère de prison, du coup, dans la loi, discrètement, il y a aussi la création de 20 centres éducatifs fermés pour mineurs. Donc, ce n'est pas les prisons pour mineurs, les centres éducatifs fermés, le régime, il est un petit peu plus léger, mais c'est quand même fermé. Et du coup, on en crée une vingtaine. On n'a pas du tout remédié au problème. Déjà en 2010 et encore en 2012, le défenseur des droits, c'était Delarue à l'époque, il disait qu'il y avait des atteintes récurrentes, régulières aux droits fondamentaux, qu'il y avait des violences physiques, qu'il y avait des manques de soins médicaux, des manques de soins psychologiques, tout ça. Mais en fait, au lieu d'y prendre en compte, on augmente encore, on en construit 20 de plus. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas pour faire des économies. Ensuite, plus sur l'aspect droit de la défense, on étend la visioconférence. Alors la visioconférence, elle existe déjà dans la procédure pénale. Dans certains, je ne sais pas exactement, mais dans certaines situations, on peut avoir des audiences par visioconférence. Ça veut dire que simplement le détenu, il est en prison dans une cellule ou dans une salle du centre de détention et que le tribunal, il est dans sa salle de tribunal. Entre les deux, il y a deux caméras et deux écrans. Alors, autant dire que déjà de base, le prévenu, on ne sait pas du tout s'il n'y a pas des surveillants dans la salle qui lui font des menaces pendant qu'il parle. On n'en sait rien parce que le juge, il ne peut pas du tout y contrôler. Et en plus de ça, il n'y a pas de contact visuel ni de contact humain entre le juge et le détenu, ce qui fait que en fait, ça perd énormément de la complexité de l'interaction, que l'interaction elle soit positive pour la personne ou négative, ou on s'en fout, mais en fait, ça fait que le juge, il a beaucoup moins l'impression de prononcer une décision à l'encontre d'un être humain, en fait. Il prononce une décision à l'encontre d'une personne qui est loin, qui n'est pas dans la pièce, et entre les deux, il y a des kilomètres et des kilomètres de fil Internet et des écrans et des caméras. Et en plus de ça, ça pose quand même des gros problèmes pour l'avocat, parce que l'avocat, il peut soit être à côté du juge, et dans ce cas-là, pour justement en se disant que ben, le juge, il a besoin d'une présence en face de lui, puis du coup, on sera plus convaincant s'il y a cette présence-là. Mais s'il fait ça, ben, en fait, il laisse le détenu tout seul dans sa tôle et dans sa salle de tôle avec on ne sait pas quoi qui se passe autour. Ou alors, justement, il va prévenir ça, puis du coup, il se met dans la prison. Enfin, voilà, c'est toujours ces... ce truc-là sur la visioconférence, elle est étendue notamment pour la détention provisoire. On attend d'être jugé, du coup. Alors ensuite, il y a d'autres choses qui se passent, toujours dans le chapitre économie. Là, c'est un petit chapitre économie quand même. La cour d'assises, ça coûte cher. La cour d'assises, elle juge les crimes, c'est-à-dire tout ce qui est meurtre, assassinat, viol, violence grave, très grave, ayant entraîné une infirmité, tout ça, tout ça. Vol à main armée et tout. Donc, les cours d'assises, c'est avec les jurés citoyens, donc 12 jurés tirés au sort, tout ça conforme, qu'on rémunère aussi, en tout cas pas qu'on rémunère, mais qu'on indemnise, parce que pendant qu'ils sont pas à la cour d'assises, pendant qu'ils sont à la cour d'assises, ils sont pas au travail, tout ça. Ça coûte trop cher. Du coup, face à ça, on crée ce tribunal criminel, on en avait parlé un peu cet été, tribunal criminel pour les crimes pour lesquels la peine encourue va jusqu'à 20 ans de réclusion, 20 ans d'emprisonnement. Donc ça concerne viol, violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, vol à main armée, par exemple. Et donc là, exit les jurés citoyens, c'est terminé, on aura juste des juges professionnels, voilà. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Je veux dire, les jurés citoyens, ils prenaient plein de décisions de merde. Les juges, ils prennent plein de décisions de merde. Les jurés citoyens peuvent être touchés par un détenu ou par je ne sais pas quoi et trouver qu'en fait, je ne sais pas, il est bien défendu et puis ça se passe bien, les juges aussi. Mais en tout cas, ça coûte moins cher. C'était aussi ces histoires, c'était des acquis de la Révolution, là, avec les gens qui en avaient marre d'être jugés par des nobles et qui, du coup, cette garantie qu'ils soient jugés par des jurés citoyens, c'était un acquis de 1789. On continue avec, là, plutôt au niveau de l'enquête. Et au niveau de l'enquête, où Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs types d'enquêtes. Il y a les enquêtes qui sont menées par la police, il y a les enquêtes qui sont menées par des juges. Celles qui sont menées par des juges, on appelle ça des instructions, avec un juge d'instruction à la tête. Un juge d'instruction, il respecte assez bien les droits de la défense. Il y a des procédures qui sont très cadrées. La défense a accès au dossier. Il instruit à charge et à décharge, tout ça. Il y a des garanties d'indépendance, il y a des garanties d'impartialité. Bon, ce qui n'est pas vraiment le cas des procureurs, on est d'accord, qui sont, eux, sous l'autorité directe du ministre de la Justice. Donc, le problème qui se pose au gouvernement, c'est d'une part que les juges d'instruction, ils sont trop indépendants, d'autre part, ils coûtent trop cher. Alors, on sabote en plusieurs fois leur poste et leur fonction depuis de nombreuses années. Et là, c'est un pas de plus dans cette direction-là. Pourquoi un pas de plus dans cette direction-là? C'est que les enquêtes menées par la police, enquête de flagrance, avant, c'était 8 jours, renouvelables une fois maximum. Du coup, ça faisait 16 jours. Et c'est important parce que ça donne énormément de pouvoir d'investigation à la police, les enquêtes de flagrance. Et maintenant, en fait, c'est 24 jours. Du coup, on rajoute 8 jours. Ensuite, ça donne énormément de pouvoir à la police, les enquêtes de flagrance, mais dans le projet de loi, on augmente les pouvoirs de la police dans les enquêtes de flagrance. Notamment, avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible de mettre une personne sur écoute. Avant, c'était seulement le juge d'instruction qui pouvait faire ça. Aujourd'hui, c'est directement un officier de police judiciaire sur ordre du procureur, après autorisation du juge des libertés et de la détention. Du coup, on fait intervenir un juge quand même, mais comme ça, en catimini. Et en plus, le procureur, s'il trouve que c'est urgent, il peut mettre en place les écoutes d'abord et demander l'autorisation après.
Ah oui.
Pas mal.
C'est sympa. On continue avec l'élargissement. Pareil, ça, on parlait d'écoute téléphonique. Là, on parle de mise sur écoute et d'enregistrement d'images de lieux publics et privés, c'est-à-dire de sonorisation à l'insu des personnes, de caméras dans les appartements, dans les véhicules, dans les parcs publics à l'insu des personnes, dans les n'importe où, quoi. Avant, ça, c'était pendant une instruction. Maintenant, c'est pareil, c'est possible aussi pendant une enquête de flagrance. Et voilà. Donc tout ça, ça tient. En fait, ça diminue l'intérêt d'avoir un juge d'instruction. Et puis surtout, ça augmente énormément les pouvoirs des officiers de police judiciaire pendant les enquêtes. Ça a des conséquences directes parce que pendant une instruction, pendant l'enquête, en fait, il n'y a aucun accès au dossier par la défense. Alors, du coup, je veux dire, les gens ne peuvent même pas se défendre quoi, de tout ça. Enfin, ça c'est arrivé très rapidement, je crois en décembre ou janvier. Il y a dans la loi, elle autorise le gouvernement à réformer toute la justice pénale des mineurs. La fameuse ordonnance de 1945 qui disait que les mineurs, il faut quand même pas trop les punir et plutôt faire des mesures éducatives ou des sanctions éducatives ou tout ça là.
Cette ordonnance de 45 avait déjà été beaucoup attaquée oui, à l'époque de Sarkozy.
Voilà, exactement. Et notamment qui a été réformée pour pouvoir mettre en place tous les établissements pénitentiaires pour mineurs et compagnie, et puis pouvoir mettre des peines à l'encontre des mineurs de 13 ans. Et voilà. Donc là, ça va être le but, ça va être une ordonnance simplement du gouvernement pendant l'année, sûrement, qui va pouvoir tout réformer, tout ça. On se rend bien compte que vu l'ambiance, ça va pas être pour aller vers plus de mesures éducatives et moins de mesures répressives, mais ça va être juste exactement l'inverse, quoi. Donc voilà, en gros, ce qu'elle dit, cette loi, sur ces mesures d'économie, de dématérialisation, diminution des droits de la défense, augmentation des types de peines encourues et compagnie. Et face à ça, ben, y a une mobilisation qui est assez étonnante, assez impressionnante, parce que c'est rare qu'en même temps les magistrats, les greffiers, les avocats manifestent comme ils l'ont fait en décembre, en janvier, et encore depuis la rentrée là, de janvier. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait des manifestations d'avocats et compagnie, des audiences où les avocats plaident contre la loi avant de plaider pour leurs clients et tout ça.
Merci.
On continue.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment lié à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a décidé de limiter par terre. C'est que les lois mises en place.
Contre la machine expulsée.
Alors, eh bien, on va faire un tour du côté de... Bon, entre la France et l'Angleterre, disons. Eh bien, un accord a été signé par Castaner et Sajid David, tous deux ministres de l'Intérieur dans leurs pays respectifs, qui sont la France et l'Angleterre. Alors, ce magnifique accord prévoit de renforcer la surveillance au niveau des ports et des plages du Pas-de-Calais. Alors, qu'y a-t-il dans cet accord exactement ? Eh bien, 7 millions d'euros, voilà, filés par le Royaume-Uni pour financer drones, véhicules et caméras à vision nocturne. C'est ça, on vous en parlait en entrée de ces infos. Voilà, alors pour le Brexit, on s'écharpe. Pour les migrants, on trouve des accords sans problème. Il y a des caméras de surveillance supplémentaires qui seront ainsi placées stratégiquement dans les ports français, ainsi que dans des zones où les migrants peuvent tenter d'embarquer. Le renforcement de la coopération et des échanges d'informations entre l'Angleterre et la France. Cette coopération se fera via le CCIC, alors, rien à voir avec la banque, hein. C'est le Centre conjoint d'information et de coordination mis en place en novembre 2018. Ce CCIC permet aux deux pays d'échanger des informations 24 heures sur 24. Voilà, c'est pas le progrès. Hein.
C'est rassurant.
Ouais. Pour les gens qui sont de mauvaise foi et qui nous écoutent, on le sait, hein, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux. Dans cet accord signé, il est bien précisé, noir sur blanc, ouvrez les guillemets, nous partageons le même objectif et la même analyse de la situation. Il s'agit avant tout pour les deux gouvernements d'éviter les pertes humaines en mettant un terme à ces traversées. Voilà. Hein, voilà. Au moins,
pardon, direct dans le studio aussi, à quelques personnes de mauvaise foi.
Voilà. Faut le dire. C'est important de préciser des choses. Alors, si un tel accord a été passé, c'est que de plus en plus de migrants tentent de traverser la Manche. Depuis ces derniers temps. À titre de comparaison, en 2017, 12 tentatives de passage ont été répertoriées. En 2018, c'est plus de 70 qui concernent 504 personnes. C'est ça, t'as qu'à bailler pendant que je suis en train de parler. On t'a entendu. Hein. Depuis le début de l'année, c'est plus de 20 traversées. Depuis le début de l'année, ça fait donc un mois, hein, c'est pas beaucoup. Et on en est déjà à 7 qui ont réussi. Tant mieux pour elles et eux. Alors, cette route apparaît de nouveau comme une route possible pour les migrants depuis que les tentatives de passer en se planquant dans un camion sont réduites à peau de chagrin. On se souvient qu'à Calais, les migrants qui tentent de rentrer dans des camions au bord de l'autoroute, au niveau du tunnel, tout ça. Ces traversées dangereuses sont une nouvelle fois la démonstration simple que plus on durcira le passage des frontières, plus les gens seront prêts à augmenter la part de risque dans leur traversée, mais en aucun cas de se résigner à abandonner toute tentative. Ces moyens de surveillance déployés n'auront donc pour seule conséquence l'augmentation du nombre de migrants morts en tentant de traverser une frontière. C'est pas du tout ça qu'on voulait comme générique. Voilà. Vous l'avez compris, hein, cette chronique est rarement quand même la chronique des bonnes nouvelles. Un bateau en début de semaine a été forcé de débarquer à Misrata après avoir passé plus de 12 heures en mer avec à son bord près de 150 migrants dont 30 femmes. Il a été secouru au large de la Libye. Il s'agit d'un navire commercial et pas d'un navire d'une ONG, ça vaut le coup de le préciser. Voilà. Et c'est sur ordre des autorités libyennes que le Lady Shame, c'est le nom du bateau, a débarqué ces personnes à Misrata. Voilà, je crois que ça valait le coup de préciser que c'était un bateau commercial et pas une ONG, parce que j'imagine qu'une ONG n'aurait pas forcément répondu de la même manière à des pressions. Mais voilà. Là,
sauf erreur, Lady Shame, ça veut dire Madame la Honte, donc il porte bien son nom.
Voilà, c'est ça. Le site Info Migrant à qui l'on doit l'entièreté de cette chronique, je dois bien l'avouer, est entré en contact avec Sarah. Alors Sarah, c'est un nom d'emprunt, une migrante qui était sur le bateau et qui se trouve maintenant détenue en Libye. Alors elle témoigne de sa détention, je vais vous lire son témoignage. Quand nous avons été récupérés en pleine mer dimanche par le Lady Shame, les membres d'équipage nous ont dit que nous nous dirigeions vers l'Allemagne. Mais le lendemain, on a compris qu'on avait été renvoyés en Libye. Des Libyens sont alors montés à bord du bateau. Ils étaient armés. Ils nous ont dit « Descendez du bateau, sinon on utilise la force ». Nous avons tous et toutes refusé de descendre. Face à notre fuite, les Libyens nous ont frappés avec des bâtons. Les coups pleuvaient sur le visage, le ventre, les jambes. Il y avait plusieurs femmes enceintes à bord. Deux d'entre elles sont en train de faire des fausses couches suite aux violences. Elles perdent beaucoup de sang, ont très mal au ventre depuis lundi. Personne ne s'occupe d'elles, elles n'ont pas de médicaments ni de protection hygiénique. Ici, dans cette prison, la vie est très difficile. Les Libyens nous donnent à manger quand ils en ont envie, pas tous les jours. De plus, c'est très violent. Hier, plusieurs hommes ont essayé de s'échapper, mais les gardiens s'en sont rendus compte. Ils ont alors été frappés, fouettés, tous les hommes, même ceux qui n'avaient rien fait, toute la journée. Ils tiraient vers le plafond pour nous faire peur. Ils sont aussi venus dans la cellule des femmes et ils ont fait pareil. Ils ne nous ont pas frappés, mais ils ont tiré en l'air pour nous faire peur. Aidez-nous, on a peur de mourir, on ne sait quand ni comment on peut quitter cet endroit.
Il faut que ça se sache.
Là, on va aller faire un tour du côté des Alpes. Et trois migrants ont été secourus à Mont-Genèvre cette semaine, alors qu'ils tentaient de passer de l'Italie à la France. Alors ça s'est passé mardi après-midi, trois personnes qui tentaient de passer la frontière entre plus précisément Clavière en Italie et Mont-Genèvre en France, et ils ont été secourus sous un télésiège. La même semaine, sept migrants ont été amenés à l'hôpital pour des engelures. Les associations de maraudes des Alpes qui tentent de secourir les migrants qui traversent la frontière s'inquiètent de la chasse à l'homme opérée par les flics chaque soir, forçant les migrants à prendre de plus en plus de risques, alors même que les températures descendent la nuit en ce moment entre moins 15 et moins 20 degrés. Thomas témoigne. La présence de la police est devenue insupportable. Tous les soirs, là-haut, c'est la chasse à l'homme. Il y a des courses-poursuites en montagne entre les policiers et les migrants. Il y a des chiens qui effraient les migrants. On nous raconte des choses invraisemblables. Pour lui, c'est à cause de la pression de la police que les migrants finissent au sommet des montagnes. Je cite. La police pousse les migrants à se mettre en danger. Même ceux qui sont équipés pour faire face au froid risquent le pire. Quand vous fuyez la police, que vous creusez un trou dans la neige la nuit pour vous cacher, les risques de mourir sont grands. Pour se rendre un peu compte, entre la Clavière, ce qui est situé en Italie, et le refuge de Briançon, c'est 17 km, 3 heures de marche par temps clément. Les flics mettent la pression, mais ils mettent aussi la pression aux maraudes afin de les empêcher de porter assistance aux migrants en difficulté. On nous met des amendes de stationnement, des amendes pour véhicules défectueux, on nous met des bâtons dans les roues. Bref, voilà. En gros, ils décrivent la situation pour dire qu'ils n'essayent pas de se plaindre en se disant voilà, c'est terrible ce qui nous arrive. Et en gros, c'est juste de dire en fait, au bout d'un moment, ils peuvent. Enfin voilà, juste, ils sont emmerdés quotidiennement les flics, alors que eux vont au maximum sur les endroits qu'ils connaissent pour aller tenter de secourir les gens. Voilà un peu ce que fait la police française.
Il faut que ça se sache.
Malheureusement, il n'y a pas que la police française qui est en action en Europe. Et on va, on va vous redonner des nouvelles du bateau Sea-Watch, puisqu'il a décidé de continuer ses secours en Méditerranée. C'est salaud quand même, hein, faut le préciser. Le 25 janvier, le bateau Sea-Watch est bloqué en mer depuis 7 jours en subissant une grosse tempête, l'obligeant à s'abriter près des côtes siciliennes, mais avec interdiction absolue de débarquer de la part de Salvini. Avec ses 47 personnes à son bord, l'équipage témoigne. Il s'agit d'un phénomène climatique rare, avec des vagues de près de 7 mètres, de la pluie et des vents glacés. Salvini, de son côté, tweet, je cite, « Je ne changerai pas ma position d'un pouce. Les bateaux, barques et autres embarcations transportant des migrants ne débarquent pas en Italie. » De son côté, quand même un peu des bonnes nouvelles, le maire de Syracuse, ville côtière sicilienne, se dit prêt à accueillir sans problème les migrants à bord du navire. Le maire de Lampedusa avait lui aussi déclaré être prêt à les accueillir. Niveau ambiance du côté de la Sicile, qui quand même, ça vaut le coup de le signaler, que ce soit du côté de la Sicile ou de Lampedusa, c'est quand même plutôt favorable à l'accueil des migrants.
D'autant plus qu'ils ont accueilli beaucoup, beaucoup de migrants ces deux dernières années et qu'ils continuent à dire qu'ils continueront et qu'ils veulent toujours offrir leur assistance pour les secours en mer.
C'est ça, situation qui est complètement, qui est assez chouette à Lampedusa par exemple, qui est quand même vraiment une toute petite île où il y a vraiment eu énormément, énormément de bateaux qui ont échoué sur les côtes et du coup on est quand même, 4-5 ans après ces multiples débarquements et secours de gens. Et le maire, alors même si... pour le coup, je pense pas qu'on peut l'accueillir de faire de la politique politicienne, le maire de Lampedusa, même s'il savait très bien que ça allait pas faire, que le bateau pouvait atterrir là-bas. C'était clairement un message envoyé à Salvini à dire en fait non, c'est pas possible de faire ça. Et même nous qui en avons accueilli proportionnellement un nombre assez dingue de gens, et ben juste on continuera à tenir cette position coûte que coûte. Des banderoles ont été déployées sur la côte de Syracuse. Du coup, c'était vraiment le bateau était vraiment pas loin. Et symboliquement, c'était des banderoles qui étaient un peu visibles, enfin qui se voulaient être visibles du bateau. On ne sait pas si elles étaient réellement sur des balcons de particuliers où on pouvait lire Fatelis Baccare pour laissez-les débarquer. Alors ça, c'était au 25 janvier. Mais en fin de matinée de ce matin, donc, un accord a été trouvé entre l'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal, Malte, la Roumanie et le Luxembourg pour accepter une répartition des 47 migrants sur le bateau.
Ah bah, il a fallu qu'ils s'y mettent à nombreux, parce que c'est sûr que 47 migrants, ça met en danger la démographie de l'Europe de manière terrible.
Attention, attention. Et il aura fallu négocier, donc le 25, ça faisait déjà 7 jours que le bateau était envoyé des SOS à l'Italie en disant franchement là on a des vagues de 7 mètres, ça craint. L'Italie disait non, il faut qu'on trouve un accord avec les autres pays. Donc voilà, donc il aura fallu combien, quoi, 14 jours, 15 jours voilà. À côté de ça, il y a d'autres gens et plein de gens qui disent, mais en fait, voilà. Et on continue quand même sur les gens qui sont prêts à plein de choses. Une association d'hôteliers, alors on ne s'attendait pas non plus à ce que ça vienne d'eux, à Syracuse, donc voilà, juste en face du bateau, s'inquiétant du sort des personnes à bord du bateau, avait proposé de payer le coût de leur transfert, de leur fournir un hébergement, des soins, de la nourriture, des vêtements, mais aussi de leur payer des cours d'italien et de protéger les mineurs secourus par le navire. Ouais. Je veux dire ça. Je veux dire voilà. Et notamment sur les banderoles, il y a notamment un hôtel qui sur chaque balcon a balancé cette banderole. Laissez-les débarquer. Bon bah voilà, ça fait plaisir quoi.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Et le nucléaire maintenant, qui joue un rôle important dans la stratégie énergétique de la France, où il a sa place malgré les quelques fermetures de réacteurs prévues, c'est l'avis en tout cas du ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. Alors, on ne va pas refaire le CV de François de Rugy, mais on se rappelle quand même qu'à une époque, il était écolo, qu'il était anti-nucléaire, qu'il était... contre les repours à Notre-Dame-des-Landes et que sais-je encore. Et puis qu'un jour, il a décidé quand même que sa carrière stagnait et il a revu un bon paquet de ses idées. Aujourd'hui, il est ministre en Macronie.
Ça paye.
Dans la stratégie du gouvernement pour la production d'énergie en France, le fameux PPE, le plan pluriannuel de l'énergie, etc., etc., le nucléaire joue un rôle important. C'est encore du François de Rugy. François de Rugy qui signe aujourd'hui le contrat stratégique de la filière nucléaire avec les industriels du secteur. Alors, il ne s'agit pas je tiens à le dire très clairement, toujours François de Rugy, d'une stratégie de sortie du nucléaire avec ce PPE. Bon, ça, on l'aura compris. Il s'agit d'un rééquilibrage dans lequel le nucléaire a sa place. C'est-à-dire que, effectivement, la part du nucléaire dans l'énergie totale devrait diminuer un petit peu. Bien moins que ce qui avait été annoncé pendant la campagne électorale de Macron.
Étonnant.
Qui passe son temps à dire que lui, il tient ses promesses. Bon, en réalité, ça dépend quand même quelles promesses. Mais en tout cas, voilà, rééquilibrage. Et donc on continue, nous considérons que dans la production d'électricité en France, et sans doute en Europe et dans le monde, le nucléaire peut jouer un rôle puisqu'il présente une production totalement décarbonée. Et donc ça, c'est que le nucléaire c'est bon parce que ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Non, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Effectivement, juste ça provoque des catastrophes un peu plus ou moins régulièrement et puis avec une potentialité. Et ça provoque aussi des déchets nucléaires, on va y revenir.
Et puis, il ne produit pas de gaz à effet de serre. C'est comme si tous les camions et toutes les entreprises de BTP qui fabriquent, qui construisent les centrales nucléaires, puis après tout le transport de l'uranium, ils n'émettaient pas des gaz à effet de serre.
De toute façon, oui, c'est sûr. Et donc, François de Rugy a encore rappelé que le gouvernement attendait des propositions de EDF en 2021 avant de décider éventuellement, de la construction ou non de nouveaux réacteurs de type EPR en France.
Ça, a priori, on n'a pas trop peur, parce qu'a priori, voilà, entre la construction et leur mise en service, il se passe un délai à peu près
de 25 ans.
Vous allez voir, je vais m'y attarder un peu quand même. Mais du coup, ce choix, donc construction ou pas construction de nouveaux EPR, va s'appuyer sur des évaluations sur le coût et le financement, et aussi sur la faisabilité technique. À ce titre, le gouvernement veut attendre le démarrage de l'EPR de Flamanville.
François, il est en train de s'interroger sur la faisabilité technique.
En François de Rugy a quand même appelé à sortir des polémiques sur l'EPR, parce que là, vraiment, il en a marre qu'on se foute de sa gueule avec ça. Enfin, de la gueule de la France, de la filière nucléaire française. Du coup, on va sortir des polémiques, on va arrêter d'en parler, on va pas parler du retard, on va pas parler de la multiplication par 4 pour le moment du fric que l'État y a mis. Entre le projet au moment où on l'a commencé et ce que ça a déjà coûté, est-ce qu'on est sûr que ça va coûter encore, ni des risques divers et variés que l'EPR nous fera courir quand il sera en route. Alors, du coup, c'est ça. Finalement, quand est-ce qu'il va être en fonction, ce fameux EPR ? Bon, pas qu'on soit pressé, hein, on est bien d'accord, chaque retard de l'EPR, c'est un peu de temps de gagner sur une sacrée augmentation des risques d'accident tout court. Mais quand même, par curiosité, on aimerait bien savoir quand il va être en route. Dans le projet initial, il aurait dû être en service, on se rappelle, en 2012. Mais là, après, c'est cette histoire dont on vous a déjà parlé un certain nombre de fois, des soudures pourries, des soudures qui ont été faites, mais mal faites et qu'il faut refaire. On sait que ça sera au mieux à la fin de l'année 2019. Enfin, tiens, le site du journal Challenge nous annonçait hier, nucléaire 2 points, l'ASN pointe le risque d'un nouveau retard de l'EPR. Et oui, et cet article nous dit ceci, l'éventuelle reprise des soudures du réacteur EPR de Flamanville, difficilement accessible, se traduirait par un nouveau retard dans le démarrage de la centrale, a déclaré mardi l'autorité de sûreté nucléaire. EDF a annoncé l'été dernier qu'il devrait réparer certaines soudures du réacteur, ce qui a alourdi la facture du projet de 400 millions d'euros et retardé sa mise en service de près d'un an. Le groupe n'a cependant pas prévu de réparer 8 soudures difficilement accessibles. Ah non, mais celles-là, elles sont coincées derrière des machins, alors bon, tant pis, on va laisser tomber. Bien qu'elles présentent des écarts par rapport à ces exigences de qualité.
On croisera les doigts pour les risques.
C'est ça. Et même un défaut pour au moins l'une d'entre elles. Alors, EDF a quand même estimé qu'ils seraient en mesure de démontrer que leurs propriétés mécaniques sont suffisantes. Surtout en démontrant que, de toute façon, elles sont trop chiantes à atteindre, alors bon. Alors pas de retard quoi, des soudures qui resteront pourries, mais enfin bon, on sait déjà de toute façon que dans le nucléaire, la cuve centrale est déjà en acier frelaté avec bien un taux de carbone bien supérieur à ce qui devrait, etc. Que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, a malgré tout donné son accord pour que EDF ne soit pas obligé de refaire cette cuve. Alors ça c'est un élément, si ça pète c'est méga dangereux. Hein. Mais là ça aurait été trop cher et ça aurait duré trop longtemps. Alors bon, 8 soudures pourries, hein, on va pas non plus...
Ça va.
On va pas. Eh bien, alors quand même, finalement, ça doit être assez grave. Parce que malgré tout, le tout nouveau président de l'ASN, qui vient de commencer la semaine dernière, dont le boulot est quand même globalement de dire que le nucléaire, c'est cool et c'est safe, là, il a pas l'air complètement convaincu sur le coup des soudures, puisqu'il nous dit « Si, à l'issue de l'instruction du dossier, l'ASN estimait que les justifications fournies par EDF n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait reprendre ces 8 soudures, les délais aujourd'hui envisagés par EDF pour la mise en service de l'EPR ne pourraient pas être respectés. »
Suspense.
Donc, bon, alors l'usine à Apocalypse qui devait ouvrir fin 2019, peut-être qu'on va avoir encore un peu de répit. Il y a quand même quelques autres usines à catastrophe qui, elles, sont en route, sacrément en route depuis parfois très 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 longtemps et sacrément menaçantes, puisque le même bonhomme, le tout nouveau président de l'ASN, aussitôt nommé, a déclaré dans une interview qu'il a donnée au Monde que l'état des installations nucléaires est un vrai sujet de préoccupation. C'est quand même un gars vraiment dont le boulot traditionnellement, l'agence traditionnellement, c'est le truc de dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, vous en faites pas. Là, il parle de vrais sujets de préoccupation. Nous sommes effectivement confrontés à des phénomènes de vieillissement de toutes les installations nucléaires qui ont atteint une durée de vie proche de celle initialement envisagée. Donc là, et là, il se met à parler de quoi ? Bah de Lyon et des environs. La centrale nucléaire du Bugey, qui est la deuxième plus vieille de France. Ah. La région Rhône-Alpes, qui est par ailleurs une des régions les plus nucléarisées de France, non, d'Europe, avec 4 centrales nucléaires quand même dans une toute petite aire géographique, le Bugey, Saint-Alban, Cruas, Tricastin, youpi. Bon, alors le nucléaire, on a compris que c'est double danger. Là, avec les vieilles centrales, ou avec la future nouvelle qui est faite en carton mal soudé, là, le risque number one, c'est l'accident, c'est le gros boom. Paf, et après, ça tue plein de monde sur le coup, ça rend des vastes régions inhabitables par la suite. Ça, c'est le risque, c'est un peu ce qui nous pend au nez avec ces trucs-là. Mais le problème, c'est que même quand les centrales fonctionnent bien, quand elles n'ont pas d'accident, ce qui se passe hein, depuis 40 ans en France, le problème, c'est qu'elles créent des déchets. Et aujourd'hui même, Greenpeace a publié un rapport sur la gestion mondiale des déchets. Et là, le rapport parle de risque de saturation mondiale. Et tiens, on dirait que le pays qui remporte la palme de faire n'importe quoi, c'est la France.
Corico.
Alors, le détail. Les combustibles usagés déchargés des réacteurs nucléaires, ceux qu'on retire après avoir fait de l'électricité avec, quoi, les plus dangereux, hein, c'est ce qui inquiète le plus Greenpeace, puisque selon le rapport, il existe en effet aujourd'hui un stock mondial d'environ 250 000 tonnes de combustibles usés hautement radioactifs, et donc ils vont rester radioactifs jusqu'à bien après que vous et moi on soit morts, hein, et y compris nos descendants jusqu'à un gros paquet de générations. Donc 250 000 tonnes qui sont réparties dans une quinzaine de pays. La majorité reste entreposée, vous savez où ?
Dans l'Oural ?
Non, dans quel type de contenant ? Non, en France, en Amérique. Eh bien, on les fout dans des piscines. Pas la piscine du Rhône. Hein, mais, allez savoir, ça pourrait peut-être réchauffer l'eau. La majorité reste entreposée dans des piscines de refroidissement sur les sites des réacteurs. Piscines de stockage qui, selon un précédent rapport de Greenpeace, sont vulnérables aux attaques extérieures, bien sûr. Imaginez que, comme ça n'arrive jamais par les temps qui courent, quelqu'un ait l'idée de tuer du monde. Bon, bah, les piscines en question, ça peut être une piste.
Bah, Greenpeace a fait, il n'y a pas longtemps, une petite action dont ils ont le secret là, sur une centrale nucléaire. Ils ont fait se poser un drone avec un fumigène sur, alors je ne sais plus de quelle centrale il s'agissait, mais ils ont fait poser le drone, mais vraiment juste sur un endroit un peu stratégique d'une centrale où on serait content que ce ne soit pas un drone.
Un endroit où si on a mis un gros pétard, voilà, il y aurait beaucoup de gens qui seraient morts. Le rapport, celui qui est sorti aujourd'hui, pointe en particulier du doigt la France, où l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a souligné le risque de saturation des immenses piscines de La Hague, où refroidissent les combustibles irradiés des centrales. Donc ils refroidissent, on les met au fur et à mesure, mais ils sont encore en train de refroidir. Ils vont devoir refroidir quand même encore pendant quelques siècles. Il n'y a pas de risque de saturation des piscines de La Hague avant 2030. C'est ce qu'a rétorqué aujourd'hui un porte-parole du groupe Orano. Alors Orano, c'est le nouveau nom de Areva.
Et ah oui, ils avaient tellement mauvaise presse à Areva qu'ils ont bien fait.
Ils ont changé de nom. Tout à fait. Et du coup, eux, ils disent que de toute façon, ils ont encore 200 emplacements. Il n'y a pas de problème, encore 200 emplacements. Chaque emplacement représente 5 tonnes de combustible usé. Et du coup, ils en utilisent plus ou moins 20 nouveaux chaque année. Donc, en gros, il y en a encore pour 10 ans. Cool, comme ça au moins, s'il y en a autant, il y en a partout. Il y en aura encore plus partout. Et alors attendez, qu'est-ce qu'on a dit une seconde avec cette histoire de rapport de Greenpeace ? Ah oui, ils sont vulnérables aux attaques extérieures. Bon, bah comme ça, ils sont aussi fastoches à trouver dans tous les coins. Tout va bien. Alors, le rapport commandé par Greenpeace s'inquiétait également du danger potentiel de l'accumulation dans les piscines des réacteurs américains. Parce qu'alors, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils construisent une piscine pour mettre une tonne, et puis finalement, ils en mettent bien plus. Puisque les piscines contiennent chacune 3 à 4 fois plus de combustible nucléaire usé que ce qui était prévu dans les concepts d'origine. Alors que les piscines se remplissent, de toute façon, aucun pays au monde ne dispose d'une solution pour les déchets de haute activité. Voilà, c'est tout. On en produit. Donc pour l'instant, on en produit 250 000 tonnes depuis qu'on a commencé à faire de l'énergie nucléaire, mais on n'a juste pas de solution. C'est bien ce que souligne le rapport. Et qui ajoute qu'un nucléaire sans solution pour ces déchets, c'est comme un avion sans piste d'atterrissage. Le rapport passe en particulier au crible la gestion des déchets nucléaires dans 7 pays, la Belgique, la France, le Japon, la Suède, la Finlande, la Grande-Bretagne et les États-Unis. L'industrie nucléaire, avec le soutien des gouvernements à différents niveaux, maintient le choix du stockage géologique du combustible usé, peut-on lire dans le rapport. Le stockage géologique, qu'est-ce que ça veut dire ? On creuse un trou et on fout le machin dedans en disant « tout va bien se passer, tout va bien se passer ». Pourtant, le problème, c'est qu'à aucun endroit dans le monde, un stockage souterrain viable, sûr et durable à long terme, quand on parle de long terme, on parle donc de siècles et de siècles et de siècles, ça n'existe pas pour l'instant, ça n'existe nulle part un stockage qui soit viable, sûr et durable à long terme. Même en Suède ou en Finlande, où ils l'ont étudié un peu plus qu'ailleurs, où les initiatives sont les plus avancées, il reste de grandes incertitudes d'après les experts. Alors en France, on connaît le projet d'enfouissement Cigéo à Bure, qui est pour l'instant un projet qui est particulièrement dénoncé.
Bure, vers la Moselle, là-bas.
Ouais, oh, la Moselle, ça veut dire dans le nord, tout ça. Ça veut dire que c'est pas juste à côté d'ici, mais...
Et oh, ça va, on a déjà les centrales.
Autant que ça soit les gens dans le Nord qui récupèrent les déchets. La vérité, nous dit le rapport, c'est que nous arrivons à une situation critique liée à la saturation des piscines de stockage. Mais pour autant, opter pour l'enfouissement profond serait une grave erreur. Et pourquoi ça serait une grave erreur ? Non seulement parce que la Terre peut toujours bouger, et en réalité la Terre bouge, y compris très profondément, et du coup on écrabouille les tonneaux entre des plaques et des machins et des bidules, après il y a des failles, après le truc qui nous tue ça remonte, mais aussi parce que de toute façon si on met très profond, on va plus pouvoir revenir en arrière, on pourra pas rechanger d'option. Alors théoriquement avec Cigéo, on est censé pouvoir y retourner pendant un siècle. Bon, d'une part, on ne sait pas si dans un siècle on aura de meilleures idées, d'autre part en réalité ce « on est censé », personne ne sait non plus, enfin bref, ces histoires c'est des emmerdes.
Puis,
pas que pour nous,
c'est un siècle, c'est court comparé à la durée de radioactivité de produits comme ça.
Puisque, on le sait, et je vais terminer sur cette petite anecdote que j'ai déjà un petit peu racontée à ce micro, mais des spécialistes sont obligés de se pencher sur la question de savoir comment signaler les endroits où ils enfouissent les déchets nucléaires, puisque la durée de grande dangerosité des déchets nucléaires est énormément, énormément supérieure à la durée d'existence des langues humaines dans toute l'histoire de l'humanité.
Ah, bah c'est sur cette note positive que nous nous arrêtons. Hein. Il est 19h58. Nous avons fini ce Canu Info. Le temps de laisser peut-être place à idées noires. Est-ce qu'on les voit derrière la vitre ? Ah. Non, c'est noir absolument.
On dirait que non.
Ah bah peut-être pas alors. Eh ben si c'est pas le cas, on vous laissera avec les bandes continues. Et s'ils arrivent avant, s'ils arrivent en retard, eh ben voilà, vous les retrouverez. En attendant, nous, vous nous retrouverez la semaine prochaine. D'ici là, tendez vos oreilles sur les autres jours des autres Canu Info. Et merci de nous avoir écoutés.
Ciao, ciao.
Bonsoir.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Belle des radios.